Épisode 11, Lapou-Lapou.
Noong Biyernes, ikadalumput anim ng April taong 1521, ipinadala ni Zula, pinuno sa pulo ng Mactan, ang isa sa kanyang mga anak na lalaki upang maghandog sa Kapitan General ng dalawang kamay.
Vendredi, 26e d'avril 1521. Zula, l'un des rois de l'île de Mactan, envoya son fils présenter au capitaine général deux chèvres, en disant qu'il voulait tenir toutes ses promesses. Mais à cause de l'autre roi qui régnait en cette île, Chilapulapu, qui ne voulait obéir au roi d'Espagne, il n'avait encore pu le faire.
Capitaine général, le roi Chilapulapu refuse de se soumettre à l'autorité de votre empereur.
Il refuse de se soumettre ?
C'est un farouche guerrier qui ne paie aucun tribut à personne.
Il faudra bien pourtant qu'il entende raison. A-t-il entendu parler de nous, de nos armes, de ce que nous faisons à nos ennemis ?
Capitaine, le roi Chilapulapu n'ignore rien de ce qui se passe sur l'île de Cebu. Il vous défie tout simplement. Envoyez pendant la nuit un bateau plein de vos gens armés pour m'aider à lui faire la guerre. Ainsi, toutes les îles seront sous les ordres de votre roi.
Nous irons. Trois bateaux, 60 hommes, et ce roi verra si l'on peut braver impunément l'autorité de l'empereur.
Amiral, ne trouvez-vous pas que la circonstance soit mystérieuse? Pourquoi ce seigneur vient-il se plaindre aujourd'hui auprès de vous du manque d'empressement que témoigne le roi Chilapulapu à notre égard, alors que lui-même règne depuis de nombreuses années sur cette île, en accord avec ce même roi?
Nous ne pouvons tolérer qu'un roi telé nous résiste. Nous devons faire respecter notre autorité.
La flotte a besoin de vous. Ne prenez point part à vous-même à cette expédition. Envoyez-moi avec quelques hommes. Je saurai rabattre l'orgueil de ce Lapou-Lapou.
Il ne sera pas dit que j'abandonne mes brebis. J'irai moi-même et je prendrai le commandement de la troupe qui débarquera.
Amiral, Mactan porte un nom funeste, qui signifie « tuer ».
Eh bien justement, nous les tuerons.
Hélas, l'amiral ne savait pas que ce présage allait se réaliser tout au contraire de son espérance. Avec une ferme résolution, il donna ses ordres. Alors, à minuit, nous partîmes 60 hommes, armés de casques et cuirasses, accompagnés du roi Humabon et quelques autres dignitaires, et une trentaine de balangae. Nous arrivâmes 3 heures avant le jour à Mactan.
Voici arrivés, messieurs. Mais il ne convient pas de combattre à cette heure. Enrique et vous, le marchand morisque, dites au roi de cette île que si lui et les siens veulent obéir au roi d'Espagne et reconnaître le bon roi et ma bon roi chrétien pour le leur, et nous payer tribut, ils seront tous nos amis. Mais s'ils font autrement, ils expérimenteront la force de nos lances, de nos escopettes et canons.
Si les Espagnols croient nous effrayer par leurs paroles, s'ils veulent la guerre, qu'ils viennent et ils l'auront. Nous avons nos lances, nos cannes brûlées, nous avons nos pieux séchés et durcis au feu, et nos flèches empoisonnées. Qu'ils viennent nous assaillir quand cela leur plaira, nous saurons les accueillir comme il le faudra.
Le jour venu, nous sautâmes dans l'eau, 49 hommes, et ainsi nous parcourûmes plus de 3 traits d'arbalète avant de pouvoir arriver sur la plage. Les bateaux ne pouvaient venir plus avant à cause des pierres et des roches. Arrivés à terre, nous les assaillîmes. Ils étaient en 3 bandes, de plus de 1000 personnes chacune. Dès qu'ils nous virent, ils nous accueillirent avec de grands cris et nous encerclèrent. Nous étions le dos au rivage. Alors le capitaine général nous divisa en deux groupes, et le combat commença. Les arbalétriers tiraient de loin, mais en vain, touchant seulement leurs boucliers, faits de planches de bois. Alors ces gens, voyant que nos armes étaient impuissantes, crièrent plus fort. Et quand nous tirâmes de nos escopettes, ils se mirent à courir ça et là pour échapper à nos tirs. Et tout en se défendant ainsi, ils nous tiraient leurs flèches et leurs lances de canne ferrées, et des pieux pointus et des cailloux. Le capitaine envoya quelques hommes brûler les maisons de ces gens pour les épouvanter, mais ceux-ci, voyant leurs demeures incendiées, devinrent plus hardis encore et plus âpres au combat, si bien qu'ils tuèrent deux de nos compagnons. Nous brûlâmes 30 de leurs maisons. Alors ils devinrent si furieux contre nous qu'ils tirèrent des flèches empoisonnées dont une toucha la jambe de notre capitaine. Il nous commanda de nous retirer, de reculer, mais nos hommes reculèrent trop vite, tant que nous ne demeurâmes plus que 7 hommes avec le capitaine. Les indigènes ne tiraient en d'autres endroits que nos jambes, parce que nous les avions nus et non protégés de nos armures. Ainsi, par tant de lances et de pierres, que nous ne pûmes résister. Nos grosses pièces d'artillerie qui se trouvaient sur les navires ne pouvaient nous aider, parce qu'elles tiraient de trop loin, si bien que nous continuâmes de nous retirer tout en combattant, et étant déjà dans l'eau jusqu'aux genoux. Ils nous décochèrent plusieurs salves de flèches envenimées, visant le capitaine parce qu'ils le connaissaient. Alors un Indien lui jeta une lance de canne au visage. Le capitaine, de sa propre lance, répliqua et tua l'Indien. Puis, voulant mettre la main à l'épée, il s'aperçut qu'il ne put la tirer qu'à moitié, à cause d'une plaie qu'il avait au bras. Les Indiens se jetèrent sur lui. L'un, avec un grand javelot, lui donna un coup à la jambe gauche, et il tomba, le visage en avant. Alors soudain, tous se jetèrent sur lui, avec lances de fer, de canne, de javelot, tellement qu'ils oxyrent le miroir, la lumière, le soutien et notre vrai guide. Pendant que les Indiens le frappaient, plusieurs fois notre capitaine se tourna en arrière pour voir si nous étions tous dans les navires. Il retarda tant qu'il put la fureur des assaillants, nous laissant le temps de regagner les chaloupes. Nous pûmes tout juste nous sauver et emmener avec nous nos blessés. Mais hélas, nous laissions derrière nous notre vaillant capitaine qui succomba sous les blessures. Tandis que notre barque regagnait le navire, je voyais sur la plage le corps inerte de notre capitaine général, sur lequel les Indiens s'acharnaient. Sans lui, aucun de nous n'aurait survécu. Sans son sacrifice, aucun de nous n'aurait jamais rejoint les navires.
Io spero che la vostra signoria illustrissima vorrà divulgare la fama di un sì generoso capitano, in modo che non vada persa nel tempo. Fra tutte le virtù.
Le roi Umabon, notre ami, envoya dire à ceux de Matane que s'ils consentaient à nous donner le corps du capitaine et des autres morts, nous leur donnerions en échange toutes les marchandises qu'ils voudraient. Mais Lapu-Lapu, le roi de cette île, ne voulut rien entendre.
Votre capitaine général est mort au combat. Pour rien au monde, je ne donnerai un homme comme lui. Nous voulons le garder pour notre perpétuelle mémoire.
Les choses tournaient mal. Nous avons fermé notre magasin de marchandises et repris à bord des navires tous les hommes qui étaient installés dans les villages. Puis nous procédâmes à l'élection de deux gouverneurs, Duarte Barbosa et João Serrao. Nous étions consternés de la mort du capitaine. Nous ne comprenions pas comment un homme aussi avisé, d'une prudence extrême, si prévoyant, s'était lancé dans un absurde combat contre ce roi Telet. Comment il s'était avancé sur son territoire sans s'être assuré de la solidité des appuis. Il avait traversé tant de dangers. Et soudain, devenu déraisonnable, il s'était jeté dans une bataille à 60 contre 3000, dans les pires conditions. La malédiction de Matane s'était réalisée. Nous étions tous comme ses fils, et nous nous sentions comme des orphelins.
Messieurs, rassemblez-vous. Je vais vous donner lecture du testament de notre valeureux capitaine général. Ô Dieu tout-puissant,
qui a dirigé et dirigera le monde.
Si c'est en Espagne
que ma vie présente doit prendre fin et ma vie éternelle commencer, j'exprime le vœu qu'on m'enterre de préférence à Séville, dans le cloître de Santa Maria de la Victoria, dans une tombe à part. 30 messes devront être dites sur ma dépouille et 30 autres après mon enterrement. Si par contre la mort me surprend pendant le voyage, je demande que mon corps soit enterré dans l'église la plus proche consacrée à la Sainte Vierge. Les biens devront être répartis entre l'église et les pauvres pour le salut de mon âme. Un dixième de mon revenu sera distribué en parties égales entre le cloître de Santa Maria de la Victoria, celui de Santa Maria Montserrat et celui de San Domingo à Oporto, au Portugal. Une somme de 1000 maravédis sera attribuée à la chapelle de Séville où j'ai reçu la communion avant le départ. Je lègue un réal d'argent à la Sainte Croisade, un autre pour la délivrance des chrétiens captifs des païens, un autre réal à la maison des incurables de Saint-Lazare, un quatrième à l'hôpital de Las Bubas et un cinquième à la Casa de Saint-Sébastien, afin que les bénéficiaires de l'aumône prient Dieu pour le pardon de mon âme. Je désire que le jour de mes obsèques on habille 3 pauvres, que l'on remette à chacun d'eux un vêtement d'étoffe grise, un bonnet, une chemise et une paire de souliers afin qu'ils prient Dieu pour le repos de mon âme. On leur donne nourriture et qu'on leur donne encore de la nourriture à 12 autres malheureux. Que l'on distribue un ducat en aumône pour les âmes du purgatoire. À partir du jour de ma mort, mon prisonnier et serviteur Enrique, originaire de la ville de Malacca ou des îles et que j'ai emmené avec moi lors de mon voyage dans les Indes, âgé d'environ 26 ans, sera libre de toute obligation d'esclavage et de subordination. Il pourra dès lors faire ce que bon lui semblera et agir comme il l'entendra. Sur la succession sera prélevée une somme de 10 000 maravédis en argent comptant, afin qu'Enrique puisse vivre dignement parce qu'il est devenu chrétien et pour qu'il prie Dieu pour le salut de mon âme.
Enrique, notre traducteur et serviteur du capitaine, était le plus triste d'entre nous. Il venait de perdre son maître. Il demeurait inconsolable, toujours enveloppé dans une couverture que le capitaine lui avait donnée. Il ne réagit guère quand il entendit la lecture de ce testament qui lui donnait sa liberté. Enrique aimait notre capitaine, et tout au long des années pendant lesquelles il avait été à son service, jamais il ne s'était senti esclave, mais bien loyal serviteur d'un grand homme. Il était inconsolable, il sanglotait, pleurait, demeurait immobile. Le nouveau capitaine, ne supportant pas cette attitude prostrée, se montra cruel. Duarte Barbosa lui infligea de nouvelles chaînes, allant jusqu'à le frapper au visage.
Ne t'imagine pas qu'en raison de la mort de ton maître, tu sois affranchi. Quand nous serons de retour en Espagne, tu resteras au service de Doña Beatrix, son épouse. En attendant, tu continueras d'obéir aux ordres, descends à terre et dis au roi Humabon que nous allons lever l'ancre et partir rapidement.
Enrique se leva, et obéissant aux ordres, sans rien répondre, il descendit à terre. C'est ainsi qu'Enrique, jusqu'alors loyal serviteur de notre capitaine général, voyant que le testament de son maître, qui devait lui permettre de recouvrer sa liberté, était bafoué, donna à entendre au roi Humabon que, s'il voulait faire selon son conseil, il lui serait aisé de s'emparer de toutes nos marchandises. Ils ordonnèrent ensemble une trahison.
Mercoledì mattina, 1 maggio, il re Cristiano mandò a dire ai governatori che erano già pronti i gioielli che...
Signor capitaine, le roi Humabon, votre fidèle serviteur, vous prie de venir voir comment il a apprêté les joyaux et les présents qu'il a promis d'offrir au roi d'Espagne. Il vous convie, vous et les vôtres, de le dîner avec lui demain. Et là, il vous baillera tous les présents.
Le 2 mai 1521, répondant à l'invitation du roi Humabon, roi de l'île de Cebu, notre nouveau capitaine et 24 hommes descendirent à terre. parmi lesquels notre astrologue nommé Saint-Martin de Séville. Moi-même ne m'y suis pas rendu parce que j'étais resté tout enflé d'une flèche envenimée que j'avais reçue au front lors de la bataille de Matane. Assez rapidement, Juan Carvalho quitta le banquet offert par le roi Humabon, s'en retourna et revint à bord du navire. Comme fin pilote, ayant l'habitude d'observer les détails, il s'était douté de quelques mauvaises aventures, car il avait aperçu celui qui fut guéri par miracle mener le prêtre à sa maison, comme s'il tentait de le protéger de quelque malheur. À peine nous eut-il dit cela que nous entendîmes de grands cris et gémissements venant des villages. Nous levâmes l'ancre et tirâmes aussitôt plusieurs pièces d'artillerie sur leur maison. Nous nous approchâmes de terre et nous vîmes João Serrao, attaché et blessé, qui, depuis la plage, nous criait de ne plus tirer, car nous pourrions le tuer. Nous lui demandâmes où étaient les autres compagnons, et il nous répondit qu'ils étaient tous morts. Sauf Enrique, notre interprète.
Venez à mon secours! Ils me tiennent prisonnier! Vous pouvez me racheter!
Serrao, si nous mettons un bateau à terre pour te libérer, nous serons faits prisonniers à notre tour, et nous serons tués.
Si vous m'abandonnez, ils me tueront. Ils veulent m'échanger contre des marchandises. Je prierai Dieu jusqu'au jugement dernier, Carvalho. Je te demande mon âme.
Elle ne vaut pas si cher que je risque la mienne.
João Serrao était le meilleur de nos compagnons. Il était capitaine de navire et avait en toute chose soutenu le capitaine général. Je l'ai vu, ce jour, alors qu'il tentait de fuir, rejoint sur la plage par une horde sauvage qu'il avait garrotté et qui le menaçait, un poignard sur la gorge. Sa vie contre une bombarde, exigeaient les Indiens. Et João Serrao implorait la pitié de Carvalho, mais ce dernier ne voulut rien entendre des suppliques de son ami. J'ai assisté à l'assassinat de Serrao, et je l'ai entendu crier encore à Carvalho.
Tu m'abandonnes! Au jugement dernier, ton âme rendra compte à Dieu!
Carvalho n'en parut pas affecté. Et tant que pilote, avec la mort de Serrao, il devint tout naturellement capitaine, chose qu'il ambitionnait depuis longtemps. Dans cette triste aventure qui valut à notre capitaine général de mourir, je crains qu'il n'y eut un complot, ourdi entre les rois, Humabon, Lapu-Lapu et Zula, et qu'il n'ait agi de concert pour notre plus grande perte. Certes, le roi Humabon s'était soumis à Magellan avec obligeance et douceur. Sa bienveillance était sincère. Pendant plusieurs jours, avec force larmes et démonstrations affectueuses, il nous avait reçus, offert nourriture et femmes. Mais était-ce réellement par amitié ou pour endormir notre vigilance? Quand le roi Zula, de Matane, voisine de Cebu, envoya son neveu au capitaine général pour se plaindre que Lapu-Lapu ne voulait point reconnaître l'autorité de notre empereur, il eut grande satisfaction de nous voir décider de porter la guerre en son île. Or les rois Zula et Lapu-Lapu, membres de la même famille, se partageaient le pouvoir. Zula se plaignait, sachant bien qu'aussitôt nous réagirions et enverrions des troupes sur Matane. Connaissant la bravoure de notre capitaine général, il savait qu'il s'y rendrait en personne, à la tête de ses hommes. Le roi Lapu-Lapu, renseigné par Humabon, dont il n'était pas tant ennemi, avait eu le temps d'observer notre armement. Il connaissait nos arquebuses, nos canons, et en conséquence nous attendait de pied ferme. En un endroit où nos canons étaient hors de portée, les bateaux ne pouvant s'approcher du rivage, les boucliers qu'il avait fait confectionner, en un bois extrêmement dur, paraient même les balles de nos armes à feu. Ces traîtres connaissaient nos points faibles. Lors de la bataille, protégés par des armures qu'ils avaient conçues en imitation des nôtres, ils répliquèrent par des flèches empoisonnées qu'ils tiraient dans nos pieds vulnérables. Leur venin était foudroyant. La bataille de Matane avait été secrètement préparée selon un plan établi par les rois des îles, sous la direction du brave Humabon. Craignant notre puissance et sachant qu'il ne pourrait nous vaincre en une bataille ouverte, à laquelle son caractère voluptueux ne l'inclinait guère, il avait préféré nous affaiblir par ses douceurs avant de nous envoyer contre les guerriers de Lapu-Lapu, roi assez belliqueux de Matane. Le lendemain de notre défaite, alors que nous avions besoin de rassembler nos forces, employant contre nous notre traducteur Enrique que, par maladresse, Duarte Barbosa avait humilié, il offrit un banquet en notre honneur agrémentant son repas du divertissement de notre assassinat. Et nous-mêmes étions assoupis et tellement sûrs de nous. Nous pensant supérieurs à eux en toute chose, nous les avions sous-estimés. Nous avions méconnu leurs ressentiments, car enfin, si nous avions débarqué en leurs îles et en avions pris possession au nom du seul Dieu véritable, nous avions également séduit leurs femmes, fourvoyant nos âmes dans le péché. La révolte était inévitable, et le massacre qui en résulta fut le prix de notre désobéissance à Dieu.
C'était Magellan, le premier tour du monde, avec Di Meo Giovanni, Antonio Pigafetta, Frédéric Thomas, Antonio Pigafetta, voix française, Nicolas de Gremont, Magellan, José Abeto Z, Enrique, Olivier Ollard, le roi Zula, Philippe Canteloup, le roi Lapu-Lapu, Alain Poclet, Juan Carvalho, Johan Bonvoisin, Juan Serrao, Benoît Aumont, Duarte Barbosa,